Je vous propose de prier pour commencer. Notre Père, je te remercie pour ta parole qui, voilà, que nous, à laquelle nous avons accès de façon assez universelle. Merci pour voilà, cette parole que tu nous as transmise pendant les siècles, au fur et à mesure des millénaires et que nous avons toujours aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous enseigne sur toi, qui nous enseigne sur nous aussi, sur qui nous sommes, sur d'où nous venons, sur où nous allons, et qui nous dit aussi sur, voilà, qui nous dit des choses sur comment vivre notre vie. Merci parce que tu te révèles à nous, et tu te révèles à nous encore aujourd'hui. Amen. Alors, qui est l'être humain? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est notre rôle sur Terre? C'est des questions qui ont préoccupé les personnes depuis toujours. Depuis qu'il y a un être humain, les gens se sont demandé « Qui est l'homme? Pourquoi est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a un rôle? Est-ce que tout ceci n'est qu'un hasard ?» Et les Israélites se posaient les mêmes questions. Et c'est pour ça, en partie, que la Genèse a été écrite. La Genèse était là pour dire d'où venait la création, mais aussi d'où venait l'homme. Et donc, il y a deux semaines, Clément nous a parlé, disons, de ce point de vue un peu global, qui est le premier chapitre de Genèse, qui nous donne la création. Dieu qui crée tout l'univers, y compris l'homme. Et nous allons pouvoir voir aujourd'hui, dans Genèse 2, un zoom que va faire l'auteur. Un zoom plus particulièrement sur l'homme. Pourquoi est-ce qu'on fait... Est-ce qu'il y a un zoom sur l'homme? Sur l'être humain? Bon, d'abord, parce que je pense la Bible, la parole de Dieu, est adressée à des êtres humains. Donc, il est normal qu'il y ait voilà, un certain intérêt pour l'homme. Mais aussi parce que l'être humain a un rôle particulier à jouer dans la création et a une stature particulière. Et donc, nous allons lire Genèse 2, des versets 4 à 25. Et pendant qu'on lit ce passage, je vous invite à garder à l'esprit trois axes qui nous sont proposés. D'abord, la relation de l'être humain avec Dieu, donc que nous allons traiter dans une première partie. Ensuite, la relation de l'homme avec la création. C'est normal, c'est pendant... voilà, aussi un élément. Et enfin, la relation entre l'homme et la femme, donc la relation à l'intérieur de l'humanité. Donc, gardez à l'esprit ces trois axes. Et donc, je vous propose de lire à partir du verset 4. « Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il y avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir, et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guion. Il entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Je me suis perdu, voilà. Qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donna. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle était tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Et il n'en avait pas honte. Alors, je ne sais pas quel était votre premier constat en lisant ce texte. Moi, la première chose qui m'a frappé, c'est le nombre assez impressionnant de fois où la phrase « Le Seigneur Dieu » est citée. Et je pense que ce n'est pas anodin que Dieu est au centre de ce passage, puisque Dieu est au centre de la création. Même dans ce récit, qui parle plus spécifiquement de l'être humain, on voit que Dieu est incontournable. On ne peut pas avoir l'histoire de la création sans Dieu, c'est clair, c'est lui le créateur, mais du coup on ne peut pas non plus avoir d'homme sans Dieu. Et voilà, ça rejoint le message principal de Genèse 1, qui est que c'est Dieu le créateur, que c'est lui qui a tout fait, qu'il en est l'auteur et qui en est l'origine. Mais on voit aussi que ce texte parle plus précisément de l'homme, plus de l'être humain, puisque l'homme revient aussi très souvent. Et, chose importante aussi, on voit que la formation de l'homme est la proposition centrale du début du texte. En fait, dans ce qu'on a lu, on a au verset 4 un titre, plus ou moins, et ensuite, un certain nombre de propositions circonstancielles. Donc là, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait pas. Voilà, c'est des indications qui se retrouvent plus en hébreu peut-être qu'en français. Mais des propositions circonstancielles pour dire, voilà quelles étaient les conditions. Et puis, on a la formation de l'homme qui est la proposition centrale. Donc ce verset qui dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Et donc, alors qu'on passe assez rapidement sur la création des animaux, ici l'auteur vient plus particulièrement sur la création de l'homme. Et c'est une création spéciale, puisqu'on a l'homme qui est créé de la poussière et ensuite insufflé du souffle de Dieu. Et je pense que ce n'est pas anodin le fait que Dieu soit, que l'homme, que l'être humain ait été créé de la poussière. Ça va être le nom d'Adam qui est tiré de cette même idée, puisque la terre en hébreu c'était Adama, et donc Adam, Adam, Adama. Son nom vient de là aussi. Mais ça nous rappelle quand même que l'homme, même s'il est particulier, même s'il a une stature particulière, il fait partie de la création. Dieu l'a façonné à partir de la terre, à partir de la poussière, et l'homme va aussi retourner à la poussière. Nous faisons partie de la création. Mais, ça ne se limite pas à ça, puisque Dieu a modelé le premier homme, Adam, avec la poussière, mais jusqu'à ce que Dieu souffle en lui, jusqu'à ce que ce souffle de vie arrive dans ses narines, ce n'était que poussière, mais c'est avec ce souffle qu'il est devenu un être vivant. Et c'est là aussi qu'on a le côté spirituel de l'homme. L'homme n'est pas juste un animal, pas juste un être vivant, détaché des aspects spirituels, mais il est appelé à une relation avec Dieu. Il est appelé à vivre le côté spirituel des choses aussi. Et dans Genèse 1, on a aussi lu, et Clément l'avait relevé, que l'homme et la femme étaient créés à l'image de Dieu. Et voilà, on a toujours cette stature particulière qui ressort. Et autre élément qui nous parle de la relation de Dieu à l'homme, c'est que Dieu fixe une mission particulière à l'homme. Les animaux, je pense, étaient plus un peu laissés. Ils avaient leur mission, on va dire, plus normale, se multiplier, vivre leur vie, manger. Mais l'homme a une mission particulière. Et c'est pas l'homme qui fixe sa mission, mais Dieu qui la fixe. Dans Genèse 1, Dieu va donner deux ordres généraux. D'abord se multiplier, remplir la terre, et ensuite de dominer sur la création, d'avoir une autorité sur la création. Et ici, on a une mission qui est peut-être plus spécifique, de cultiver et garder le jardin. C'est plus une autre traduction pourrait même être simplement servir, donc servir dans ce jardin. Et donc, on a l'homme qui a sa mission qui lui vient de Dieu. Et ce n'est pas simplement une mission que Dieu lui donne, mais c'est aussi Dieu qui fixe les règles. Dieu va mettre devant l'homme encore la bénédiction et la malédiction. La bénédiction d'abord, puisque Dieu va dire qu'il peut vraiment tout manger dans le jardin. Tous ces arbres qui sont magnifiques, avec des fruits bons à manger, tous ces arbres, l'homme y a droit. Il peut profiter de ce jardin. Tous les arbres, sauf un arbre. Mais du coup, on voit que Dieu n'est pas pingre. Dieu offre tout à cet homme, tout à l'être humain. Ce jardin merveilleux où on a tous ces descriptifs avec ces rivières qui sortent du jardin, avec l'or, tout ce faste, et l'homme peut en profiter. Mais face à cette bénédiction que Dieu propose, que Dieu prononce envers l'homme, il y a aussi cette malédiction si jamais il mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si jamais il en mange, il mourra certainement. Et on y reviendra la semaine prochaine avec François qui va nous parler de Genèse 3 avec la chute. Il y avait ces deux choses qui étaient offertes à l'homme. Et c'est Dieu qui fixe les règles. Et cet axe de l'homme en relation avec Dieu est primordial. Aujourd'hui encore, cette relation avec Dieu est vraiment importante pour nous. Et quand Pascal a dit que dans l'homme, il y a un trou en forme de Dieu, ça date déjà de cette époque-là. L'homme est créé pour être en relation avec Dieu. Et même si cette relation a été, avec la chute, entachée par le péché, Dieu nous a donné la possibilité de restaurer cette relation en envoyant son Fils, qui est mort à notre place, et en envoyant son esprit vivre en nous. Et donc, on a cette relation de l'homme à Dieu qui est déjà manifeste au niveau de la création. Et on voit là un des premiers axes aussi de notre mission sur Terre, qui est l'adoration. Comment réagir à ce Dieu qui veut être en relation avec nous alors qu'il est notre Créateur. Alors ensuite, on a la relation de l'homme avec la création. Et on a déjà eu plusieurs éléments évoqués, notamment par rapport à la mission particulière de l'homme. Dans Genèse 1, on nous parle de la domination de la création. Donc, pas comme on l'entend nécessairement habituellement, pas au sens de dominer durement, mais cette responsabilité, mais aussi cette autorité sur la création. Et l'homme est invité à profiter de la création, notamment pour la nourriture, où Dieu dit que tout ça vous pouvez en profiter pour en manger. Et dans Genèse 2, nous avons d'autres indications. D'autres indications qui vont peut-être nous donner des éclairages sur la relation de l'homme avec la création. D'abord, au tout début du passage, on lit qu'avant la création de l'homme, la végétation était moins développée. Donc, première raison, parce que Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie. Mais deuxième raison, parce qu'il n'y avait pas encore d'homme pour la cultiver. Et donc, Dieu avait prévu que l'homme joue un rôle là-dedans. La cultivation de la végétation. Et donc, voilà, on voit déjà qu'il y a un élément où Dieu prévoyait que l'être humain participe à sa création au niveau de la cultivation. Ensuite, après la création de l'homme, Dieu va le placer dans le jardin pour le cultiver et le garder, pour le servir. Et là, on pourrait se dire que peut-être c'est une injonction moins globale que les instructions de Genèse 1, puisque voilà, là, il le place dans le jardin spécifiquement pour le cultiver. Mais ce n'est pas anodin que ce soit le premier travail de l'homme. La première instruction, la première mission de l'homme, c'était de cultiver, c'est-à-dire de planter, d'entretenir, tout le travail d'un agriculteur pour travailler cette terre, pour travailler ses arbres, pour travailler ses arbustes, mais aussi pour le garder. Alors, garder de quoi ? En tout cas, voilà, il y a un rôle de gestionnaire, de protection de ce jardin. Et donc, voilà, on a déjà des éléments qui nous disent que l'homme est appelé à travailler cette terre, travailler cette création. Et voilà, on peut aussi se poser la question de quelle est la relation de l'homme avec les animaux. Alors, chose intéressante, pour trouver une aide à l'homme, Dieu va d'abord créer les animaux de toutes sortes et les présenter à l'homme. Et, chose intéressante, ce n'est pas Dieu qui dit « Bon, alors voilà Adam, ceci est un rhinocéros, ceci c'est un éléphant. » Non, c'est Dieu va inviter l'homme à nommer les animaux. Et peut-être plus que ça, c'est Dieu va accepter les noms que l'homme leur a donnés. C'était prévu dans son plan que les animaux soient nommés par l'homme. Et voilà, c'est là qu'on rejoint peut-être un peu cette idée d'autorité, où on a l'homme que Dieu utilise pour gérer cette création. Et donc, voilà, on revoit cette idée que d'un côté, l'être humain a un statut spécial. Il n'est pas un animal comme les autres, et au contraire, il a une autorité particulière sur la création. Mais, malheureusement, avec la chute, une des conséquences sera aussi que la domination voulue par Dieu, l'autorité de l'homme, va se transformer en domination pesante sur la création. Mais en tout cas, ici on a peut-être un deuxième axe qui ressort de notre mission sur Terre, c'est ce travail. Ce travail, cette mission à être dans la création et à œuvrer. Donc, la première partie, on a vu la relation de l'homme à Dieu qui, voilà, explique aussi notre besoin, notre mission d'adorateur. Ici, nous avons la relation de l'homme avec la création qui nous rappelle aussi notre mission d'être travailleur, de travailler. Et nous venons à la relation entre l'homme et la femme, la relation au sein de l'humanité. Alors, ici, nous retrouvons une autre différence avec l'animal. La création de l'homme et de la femme qui se fait un peu en deux fois. Alors que les animaux, Dieu va créer un peu tout d'un coup. Et ce récit est important parce qu'il va être utilisé dans le reste de la Bible pour expliquer certains principes. C'est des éléments fondateurs sur notre compréhension de l'être humain, de l'homme et de la femme et de nos relations ensemble. Et donc, voilà, n'oublions pas la raison. Dans un premier temps, Dieu va créer l'homme et il va énoncer un constat. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est ce constat-là qui va faire que Ah, Dieu ne va pas laisser l'homme tout seul. Il va rechercher une aide et un vis-à-vis. Et donc, on peut se demander, que signifie ce constat? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, peut-être une lecture hâtive pourrait nous faire voir d'un mauvais œil le célibat et de dire, non les gars, on ne peut pas rester célibataire. Il faut se marier nécessairement, tout de suite, le plus vite possible. Mais voilà, ce n'est pas, je pense, l'objectif ici. Là, on avait Adam qui était complètement seul. Il n'avait aucun semblable. Il était fait à l'image de Dieu, donc voilà, il pouvait avoir une relation avec Dieu, mais il n'avait pas ce vis-à-vis. Et donc, voilà, les raisons que Dieu donne de la recherche de la femme sont importantes. D'abord, il veut lui trouver une aide à l'homme. Et si on a besoin d'une aide, c'est qu'il y a un travail à accomplir. Et Dieu a donné des missions à l'homme, donc, comme on a vu, et c'est des missions voilà, qui seraient difficiles d'accomplir seules, notamment la multiplication, tout seul, ça aurait été compliqué. Mais voilà, même le travail dans la création, à deux, c'est mieux. Et donc, il n'est pas bon d'être seul dans le travail, il est mieux d'être plusieurs. Et c'est Jésus va le reprendre quand il dit, si on est deux et quelqu'un chute, l'autre peut le relever. Et c'est un élément qu'on retrouve ici. Mais Dieu ne veut pas juste trouver une aide. Sinon, peut-être qu'un animal aurait suffi. Il aurait pu trouver un animal bien pour être une aide de l'homme. Mais Dieu veut aussi trouver un vis-à-vis pour l'homme. Et donc, voilà, un vis-à-vis, c'est quelqu'un de semblable avec qui on peut, discuter, avec qui on peut être en relation. Et là, c'est important, puisque l'être humain, tout comme Dieu, dans la Trinité, est un être relationnel. Les animaux ne comblent pas le vide. L'homme a besoin d'interaction avec des pairs, avec des personnes comme lui, avec des personnes, avec d'autres êtres humains qui vont le comprendre et qui vont aussi être un peu ce miroir à laquelle il pourra grandir. Et donc, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Dieu va donc créer la femme à partir de l'homme. Alors certains vont analyser le fait que ce soit à partir d'une côte pour dire, voilà, si Dieu a créé la femme à partir de la côte, c'est pour que ce ne soit ni à partir de la tête et donc qu'elle domine sur l'homme, ni à partir des pieds et que inversement ce soit l'homme qui la piétine. Bon, en tout cas, on a l'homme et la femme qui sont de même nature. On a la femme qui est créée à partir de l'homme. Et tous les deux sont à l'image de Dieu, d'après Genèse 1. On peut peut-être juste relire, donc dans Genèse 1, on va lire le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et donc là, on a une égalité de nature. L'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Mais on a aussi l'homme qui est né en premier. Et c'est ce qui va fonder beaucoup des choses qui vont être dites par la suite, notamment dans ce que Paul dira sur le fait que l'homme soit le chef ou la tête de la famille, avec toutes les responsabilités qui en découlent. Ça vient aussi de cet élément-là, où c'est Adam, l'homme, qui est né en premier. Et en tout cas, donc même si même si le fait que Dieu dise « il n'est pas bon que l'homme soit seul » ne veuille pas dire que voilà, le célibat est exclu, le mariage est une façon privilégiée de vivre cette relation avec une aide et un vis-à-vis. Et donc, je vous propose de vous intéresser un peu plus particulièrement à la fin du passage qui va nous donner la base du mariage, qui va simplement être la suite logique de ce qui se passe, avec Dieu qui recherche une aide et un vis-à-vis pour l'homme et qui va créer la femme à partir de sa côte pour être avec lui, pour être son aide et son vis-à-vis. Et donc, on va avoir la conséquence logique qui est le mariage. Et ce texte, encore une fois, est important puisque c'est le texte fondateur du mariage et que Jésus, par exemple, va utiliser quand il doit répondre à une question sur le divorce. Et d'autres auteurs aussi vont s'appuyer dessus. Et donc, voilà, c'est ce passage qui fonde vraiment, véritablement, ce que nous, nous comprenons dans le mariage. Et donc, qu'est-ce qu'un mariage ? On a trois éléments qui sont indiqués ici. On a quitté ses parents, s'attacher à sa femme ou son mari, former une seule chair. Et donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se fait. Alors, que veut dire former une seule chair ? D'abord, ça s'applique bien sûr à l'acte sexuel, puisque Paul va utiliser cet axe notamment pour proscrire la prostitution, en disant que si vous vous unissez à une prostituée, vous êtes en train de former une seule chair, vous êtes en train de vous unir pour quelque chose de temporaire. Et donc, on a cette idée d'union, de Dieu qui unit les deux personnes de façon permanente. Et il y a quelque chose, voilà, les deux mariés ne deviennent pas, on va dire, une fusion l'une de l'autre. C'est pas un peu l'histoire avec les Grecs où tu as les âmes sœurs qui sont, voilà, qui forment une nouvelle créature. Non. Mais même si le mari et la femme restent deux personnes indépendantes, le couple est quand même quelque chose de nouveau. Puisque là, on a la création d'une nouvelle cellule dans la société, en quittant ses parents et en s'unissant l'un à l'autre. Et donc, voilà, avant, on était dans la famille de ses parents, et maintenant, on est sa famille. Et les enfants vont suivre. Et donc, voilà, ça, c'est déjà les grandes lignes qu'on a dans un mariage. Cette union de deux personnes, d'un homme et d'une femme, pour la vie. Et Paul, plus tard, va donner des précisions sur certains aspects, on va dire, pratiques du mariage, notamment la comparaison avec le célibat, de que faire si on se convertit alors qu'on est marié à non-chrétien, quelles sont les relations à avoir entre mari et femme, entre parents et enfants, et ainsi de suite. Mais voilà, tous ces aspects pratiques vont découler de cette base. C'est ici que tout commence. On a ici le fondement créationnel du mariage auquel il faut comprendre, qu'il faut revenir pour comprendre vraiment ce qu'un mariage devrait être. Et donc là, on a un autre aspect de notre mission sur Terre qui apparaît, c'est notre vie familiale et sociale. Cette relation qu'on a à avoir dans la famille, mais aussi avec les autres êtres humains. Et donc, on a vu que l'homme a été créé pour être en relation avec Dieu, pour être en relation avec la création et entre homme et femme, ainsi que globalement avec tous les autres êtres humains. Et donc, quand nous demandons d'où nous venons et notre but sur Terre, la Genèse nous donne plusieurs réponses. Donc d'abord, l'adoration. Nous sommes créés par Dieu à son image et nous sommes appelés à être en relation avec, lui. C'est aussi pourquoi est-ce que nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons être en relation avec Dieu. Ensuite, deuxièmement, le travail. Dieu a des plans pour nous, notamment comme gestionnaire de la terre. Et la semaine prochaine, on verra que dans la chute, le travail est devenu pénible, mais ce n'est pas le travail, bon, je ne vais pas trop en parler, mais voilà, le travail reste quelque chose de bon. Et voilà, c'est quelque chose à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui encore à faire ces œuvres bonnes que Dieu prévoit pour nous. Et enfin, nous sommes appelés à une vie familiale et sociale. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là encore, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est oui, nous sommes en relation avec Dieu, mais nous le sommes avec nos frères et sœurs. Et donc, je vous invite vraiment à ressortir ce matin encouragé. Dès le commencement, Dieu avait un plan pour nous. Et même si, donc la semaine prochaine, on abordera la chute, où l'homme se détourne du plan de Dieu, même si cette chute a entaché la création, même si elle a entaché notre participation au plan de Dieu, Dieu a voulu rétablir la relation avec l'homme, et il l'a fait en envoyant son Fils. Et là, quelle est la conséquence de ça? Si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, nous sommes de nouveau en relation avec Dieu. Et nous avons un rôle dans l'établissement de son royaume. Nous avons des belles œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et peut-être la plus belle des choses, nous faisons partie de la famille de Dieu. Je vous invite à prier. Notre Dieu, je te remercie parce que tu as voulu que nous soyons en relation avec toi. Et c'est vrai que des fois on se demande, qui est donc l'homme, ô Éternel, pour que tu le considères ? C'est nous qui sommes nés de la poussière, qui sommes ta création. Mais nous sommes aussi à ton image, Seigneur, et tu veux être en relation avec nous. Merci parce que tu as voulu être en relation avec nous à tel point que tu as envoyé ton Fils mourir à notre place. Alors qu'on ne méritait pas ça, alors qu'on t'avait rejeté, on avait rejeté ton plan pour nous. Mais merci parce que malgré, on va dire, notre rébellion, malgré notre rejet de toi, tu ne nous as pas rejetés, mais tu nous as de nouveau tendu la main. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à vivre en relation avec toi, à entretenir cette relation, à la vivre de façon toujours plus profonde. Et je te remercie parce que voilà, tu nous donnes aussi nos frères et nos sœurs avec qui nous pouvons avoir des relations, nous pouvons grandir, nous pouvons aussi regarder ensemble à toi. Et je te remercie parce que voilà, tu ne nous as pas laissés oisifs. Tu n'as pas, voilà, quand on s'est converti, simplement, on va dire, amené direct au ciel, mais tu nous invites aussi à participer à ta création et à participer à ton plan, Seigneur. Merci parce que tu as des grands égards pour nous qui ne le méritons pas. Au nom de ton Fils. Amen.